Bonjour, bienvenue sur nos ondes locales pour une nouvelle chronique du passé. Nous sommes ravis de vous retrouver et retrouver Rémi. Bonjour Rémi.
Bonjour Martine. Bonjour à tous. Voici 80 ans, des soldats français rentraient dans leur pays après plusieurs années de captivité en Allemagne.
Cet aspect de la guerre est loin d'être négligeable, car il concerne plusieurs milliers de soldats de l'Ain et de toutes nos communes.
Cette absence des hommes a été douloureusement vécue par les familles. Nous évoquons toutes les difficultés qui ont dû être surmontées après avoir écouté la valse des regrets, interprétée ici par Françoise Hardy, sur une musique de Brahms jouée par
Hélène Grimaud.
L'orgue de la nuit, au clair de lune, gémit. La brise fait de son archet chanter la valse des regrets. Mon bel amour, au bois dormant, quittez vos rêves troublants, vous éveillant tout doucement. Venez vers moi qui vous attend. Venez vers moi, il est grand temps. Calmez les mois d'un cœur qui bat devant l'effroi d'une prière vaine. L'ombre s'alanguit, des formes glissent sans bruit et du passé. Vestiges usés, nos souvenirs s'en vont danser.
Nous évoquons les prisonniers français de la guerre 1939-1945. Ils sont de retour au printemps de 1945, au fur et à mesure de l'avancée des troupes alliées en territoire allemand. Nous pouvons commencer par rappeler les conditions dans lesquelles ils ont été capturés.
L'Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939. En vertu des accords d'assistance, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. Sans beaucoup de conviction, la France attaque en Sarre du 7 au 14 septembre, puis les troupes reviennent en deçà de la frontière, en Lorraine.
Une période d'attente s'installe et elle sera appelée la drôle de guerre.
Cette drôle de guerre cesse brutalement avec l'offensive allemande à l'ouest à partir du 10 mai 1940. L'armée française pénètre en Belgique dans l'espoir de prendre l'armée allemande à revers, mais cette armée attaque là où elle n'est pas attendue, à travers les Ardennes.
Ce sont les Français et les Anglais qui sont pris à revers. À ce moment-là, le Danemark et la Belgique sont déjà envahis.
Les Anglais et les Français se replient sur Dunkerque, d'où ils sont évacués par la mer. Heureusement, les Allemands marquent un temps d'arrêt, ce qui permet le réembarquement de plus de 300 000 soldats. Mais les armes restent sur les plages.
Partout souffle un vent de panique.
Les populations civiles fuient devant l'avancée allemande. C'est la débâcle. Toutes les routes sont encombrées. Malgré quelques points de résistance, l'armée française se retire vers le sud. En réalité, elle est totalement désorganisée et les soldats sont coupés de leur commandement.
Dans ces conditions, le maréchal Pétain préfère demander l'armistice.
Sa prise de position est ambiguë. Il appelle à cesser le combat dès le 17 juin 1940. Cela désorganise encore plus les armées françaises et les Allemands utilisent cet argument pour mettre la main sur les soldats français. Ils leur disent que ce sera bientôt la paix. Il est fort possible que tous, Français et Allemands, espèrent un retour dans leur foyer.
En réalité, les armistices sont signés le 22 juin avec l'Allemagne et le 24 juin avec l'Italie et applicables le 25 juin au matin. La période de flottement a duré près d'une semaine.
Et les Allemands sont déjà en Bretagne. Ils ont atteint Bordeaux, Lyon et Grenoble. Les captures sont impressionnantes. 1 800 000 prisonniers. Jamais une telle masse n'avait été enregistrée dans un conflit, et en si peu de jours. Avec l'armistice, la France est coupée en deux par une ligne de démarcation de Biarritz à Bellegarde, dans l'Ain, en passant auprès de Tours, Moulins, Chalon-sur-Saône et Dole.
La zone occupée est au nord de cette ligne et la zone dite libre au sud. Mais en ce début de guerre, les prisonniers sont un peu partout. Dans un premier temps, les Allemands les regroupent dans des camps provisoires en zone occupée, les Frontstalag.
L'un d'eux est installé sur le camp d'aviation de Lanvy, près de Dijon, un camp qui a subi des bombardements. Mais c'est là, dans des conditions précaires, que les Allemands regrouperont plus de 30 000 prisonniers, dont ceux de la région lyonnaise.
Qui vont remonter la vallée de la Saône à pied et en plusieurs étapes.
Le journal de l'Ain, déjà très pétainiste, bénéficie de suffisamment de papier pour paraître 5 jours sur 7. Il suit la progression d'une colonne de plus de 5000 prisonniers qui fait des arrêts à Genet, Monugnat, Manzia, puis Simandre en Saône-et-Loire.
L'arrêt à Manzia est plus longuement évoqué.
L'hébergement, entre guillemets, se fait dans les prés. Le maire a été prévenu par les autorités allemandes. Aussitôt, il sollicite un ravitaillement auprès de la population et des communes voisines. Du pain est cuit et 2 bovins sont abattus. Pensez donc, plus de 5000 hommes à nourrir. Alors que, normalement, selon la Convention de Genève sur les prisonniers, la nourriture est à la charge des Allemands.
Les hommes sont déjà épuisés et le maire fait appel à un médecin de Mâcon qui arrive avec des infirmières.
Des soins sont prodigués. Et le médecin obtient des autorités allemandes que 90 malades soient transférés à l'hôpital de Mâcon. Ils vont ainsi échapper à la captivité.
Après le camp de Lanvy, près de Dijon, où vont les prisonniers?
Ils sont progressivement envoyés dans des camps en Allemagne. Les soldats dans des stalags et les officiers dans des oflags. Seuls les soldats sont contraints au travail. Ils sont regroupés dans des commandos, avec un K, plus ou moins importants. Et la grande majorité est employée dans l'agriculture. La Convention de Genève, que nous avons évoquée, interdit que des prisonniers soient utilisés dans des usines d'armement.
Sur les 1 800 000 prisonniers, environ 1 600 000 connaissent l'internement en Allemagne. Combien pour le département de l'Ain?
Vous les avez comptés, Rémi. Les Allemands transmettent à la France la liste des prisonniers en plusieurs fois. Et le Centre national des prisonniers envoie cette liste à la préfecture de l'Ain entre octobre 1940 et février 1941. Selon vos calculs, ces 7 listes totalisent 6162 noms. C'est approximatif, car quelques prisonniers ont déjà été libérés. Et il y a sans doute quelques imprécisions, mais le total est tout à fait réaliste.
Que fait le gouvernement pendant ce temps ?
Eh bien, le gouvernement est à Vichy et l'État français a été installé depuis le 10 juillet 1940. Une direction du service des prisonniers de guerre a été créée fin juillet. Elle est dirigée par Georges Scapini. Après sa rencontre avec Hitler à Montoire, Pétain parle à la radio le 30 octobre 1940. Pour lui, la collaboration est un moyen d'alléger les souffrances du pays et d'améliorer le sort des prisonniers.
Quelle est l'influence de ce discours?
Dans un premier temps, une grande majorité accorde sa confiance à Pétain, et chacun espère. Pétain compte aussi s'appuyer sur les prisonniers pour sa révolution nationale, et des cercles Pétain sont créés dans les stalags. Un envoi de livres aux prisonniers est lancé à partir du printemps 1941, mais rien n'évolue. Il devient évident que Pétain n'a aucun pouvoir face à Hitler. Et les prisonniers resteront en Allemagne. La désillusion s'installe.
Des mesures sont pourtant bien prises.
Toujours, mais dans un sens favorable à l'Allemagne. Vichy encourage le volontariat, puis institue la relève en septembre 1942. Pour 3 ouvriers partant pour l'Allemagne, un prisonnier rentre. Comme cette mesure ne rencontre pas de succès, le STO, Service du Travail Obligatoire, est imposé en février 1943. Tout cela n'ouvre guère de perspectives aux prisonniers.
À propos, comment les prisonniers vivent-ils leur captivité?
La majorité des hommes sont mariés et parfois pères de famille. Il est très éprouvant d'être séparé des siens. De plus, leurs courriers sont sévèrement réglementés en périodicité et en longueur. Leurs lettres, sur formulaire, ne doivent pas dépasser 27 lignes. En Allemagne, La situation est contrastée. Certains sont anti-français et d'autres, qui n'acceptent guère le parti nazi, ont de la bienveillance. Alors, les conditions de vie sont très différentes d'un lieu à un autre, d'un commando à un autre.
Des colis leur sont envoyés.
Oui, heureusement. Par les familles, la Croix-Rouge ou des comités d'entraide communaux, mais selon des règles très précises et toujours fixées par l'Allemagne. Envoyer des vivres de la campagne est toujours plus facile, mais en ville, tout se fait au détriment du quota des tickets de ravitaillement. Ces familles doivent se priver pour soutenir leurs prisonniers. Et la vie est compliquée pour tous.
Il y a pourtant des libérations.
Très peu nombreuses, malgré les dispositions que nous avons invoquées, la relève et le STO. L'Allemagne a trop besoin de prisonniers et autres personnes pour faire fonctionner son économie. À la fin de 1944, il reste encore 1 million de prisonniers retenus en Allemagne, auxquels il faut ajouter des volontaires et les STO. Mais comme nous le constaterons par les chiffres, le département de l'Ain n'est pas favorisé par les retours.
Certains prisonniers, soldats ou officiers, s'évadent.
S'évader ? Mais c'est le devoir de tout prisonnier. Mais environ 4% réussissent. Il y a plusieurs raisons. La barrière de la langue, la distance à parcourir et la logistique à mettre en place avant le départ. Difficile, même avec l'aide des camarades de chambrée, pour les vêtements, la nourriture, les cartes. C'est moins « difficile », entre guillemets, pour ceux qui sont proches du Danemark, de la Belgique ou de la Suisse. Les Allemands sont très vigilants pour le courrier reçu et dans les camps, et intraitables lors des reprises. Après récidive, les prisonniers sont envoyés dans le sévère camp de Ravaruska en Ukraine. Ils vont souffrir des privations, du froid et des moustiques.
Le vent de la guerre tourne en 1942-1943 et prend un tournant décisif après les débarquements du 6 juin et 15 août 1944. Mais l'Allemagne résiste encore et encore.
Au moment où l'Ain est libéré en septembre 1944, le département compte presque autant de prisonniers en Allemagne que d'Allemands prisonniers dans l'Ain. Ils seront employés dans l'agriculture et dans divers chantiers. C'est une situation paradoxale qu'il faut signaler. La guerre continue ailleurs et les Alliés progressent en Allemagne. Ils libèrent peu à peu des prisonniers qui rentrent à partir de mars. Ils ne sont que 10 à être revenus dans l'Ain le 15 mars.
Ces retours se font bientôt de plus en plus nombreux.
Surtout à partir de mai 1945. Le journal local, La République Nouvelle, publie alors une rubrique régulière « Heureux retour ». Cela concerne les prisonniers, les déportés politiques et les STO. Le 15 avril, les retours sont au nombre de 1318.
Des lieux d'accueil sont créés.
Les retours se font en gare de Bourg et un centre d'accueil est aménagé à l'hôtel Terminus, tout proche, en capacité d'accueillir 125 personnes par jour. Un autre centre d'accueil et de soins est aménagé à Divonne-les-Bains pour les déportés politiques. Le 1er juillet 1945, 4652 prisonniers sont revenus. D'autres suivent. Plus 257 un mois plus tard, et d'autres encore en octobre et novembre. Cela fait, selon la préfecture, un total de 5018 prisonniers de retour au pays fin 1945.
Certains manquent encore à l'appel.
Durant les derniers mois, les familles sont de plus en plus inquiètes. C'est vrai que les retours par la Russie sont plus longs, mais de mauvaises nouvelles arrivent. Un prisonnier décède d'épuisement lors de son passage à Paris. Un autre est victime d'un bombardement en Pologne, juste avant son retour. De bien tristes péripéties, alors que la guerre est terminée depuis le 8 mai.
Nous avons dit que l'Ain n'avait pas été favorisé par les libérations anticipées des prisonniers.
Selon les historiens, il restait en Allemagne, fin 1944, 1 million de prisonniers sur les 1 600 000. Si nous appliquons cette proportion à notre département, il devait rester un peu plus de 3 800 prisonniers de l'Ain fin 1944. Les libérations anticipées ont été inférieures à la moyenne nationale, car ils sont plus de 5 000 à rentrer en 1945. L'écart est beaucoup trop important pour un simple concours de circonstances. Cette différence interpelle. La guerre n'est pas de l'arithmétique, mais impose de multiples souffrances.
Des mesures ont été prises en faveur des prisonniers pour faciliter leur retour à la vie.
La maison du prisonnier coordonne des actions, notamment le livret du prisonnier, pour que chacun dispose d'une somme à son retour. Des réceptions sont organisées à leur intention et quelques communes leur offrent un repas d'honneur à l'automne 1945.
Les épreuves s'estompent.
Et tous, ou presque, reprennent goût à la vie. Nous terminons sur cette note de réconfort. Nous remercions Jimmy et un petit coucou à Hortense, à la technique, et nous nous quittons avec « Douce France » de Charles Trenet.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.